Territoire d'Info, une revue hebdomadaire de l'actualité des assemblées territoriales et municipales des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Territoire d'Info par Thomas Etier.
Bonjour, bienvenue à Territoire d'Info. Je suis Thomas Etier, journaliste IGL. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine sur les territoires. À la surprise générale, le GTNO annonçait cette semaine qu'il abroge sa directive ministérielle controversée sur les admissions dans les écoles francophones du territoire. Mon collègue Baptiste Foisier en a discuté avec le président de la commission scolaire francophone des TNO, Simon Cloutier. Des voix se sont élevées cette semaine pour s'objecter aux restrictions actuellement imposées par le GTNO et la santé publique face à la menace de COVID-19. À quelques jours d'intervalle, l'Association médicale des TNO et 5 associations représentant des entreprises privées du territoire ont publié leurs critiques. La ministre de la Santé et des Services sociaux, Diane Thom, a-t-elle enfreint les règles de santé publique imposées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire? C'est ce qui est allégué dans une plainte formulée par le député de Nunakput, Jackie Jacobson, au commissaire à l'intégrité des TNO. Le Nunavut annonçait cette semaine de nouveaux assouplissements à ses règles de santé publique, en plus d'une bonne nouvelle pour plusieurs travailleurs considérés comme essentiels. Un premier cas de COVID-19 pourrait avoir été détecté sur le territoire nunavois, dans une mine rigoureusement isolée des collectivités environnantes. Malgré les contestations, un immeuble multilogement sera construit dans la vieille ville de Yellowknife. J'en ai discuté avec Vincent Desforges, qui s'est penché sur la question pour le journal L'Aquilon. Et finalement, la pluie et les règles d'éloignement physique n'ont pas empêché les Ténois de célébrer ensemble la fête nationale. Certaines collectivités ont pu profiter de leur parade annuelle. C'est le cas des résidents de Hare River. Coup de théâtre, le 30 juillet, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a annoncé qu'il abrogeait sa directive ministérielle sur les admissions dans les écoles francophones. Cette politique controversée, selon laquelle il revient au ministre de l'Éducation de déterminer quels élèves pourront fréquenter les programmes de français langue première, a fait l'objet de nombreuses contestations judiciaires au cours des dernières années. Suite à cette annonce surprise, Baptiste Foisy de l'émission Bonjour là s'est entretenu avec le président de la commission scolaire francophone des TNO, Simon Cloutier.
On rejoint le président de la commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest, Simon Cloutier. Bonjour Simon.
Bonjour Baptiste.
Simon Cloutier, nous on a appris la nouvelle mardi en fin de journée. Est-ce que vous aviez des indications que cette décision-là inattendue s'en venait?
Mais c'est sûr que on avait commencé à avoir des discussions avec le ministre de l'Éducation là, une fois qu'il avait été nommé là, suite aux dernières élections territoriales. On avait discuté de la directive ministérielle, on avait discuté de ce que nous on pensait qu'il serait bon de faire pour régler le problème que nous vivions avant. Mais je dois avouer honnêtement que j'ai moi-même été pris un petit peu par surprise parce que compte tenu de la situation du COVID du printemps puis le fait que là toute l'attention du ministre du département de l'éducation du ministère des commissions scolaires était mise sur les écoles puis l'éducation en période de pandémie donc je m'attendais pas à cette nouvelle-là là, mardi. Je l'ai su évidemment quelques jours avant. Là, le ministre m'avait fait part qu'il était pour annoncer ça mardi, mais j'avais quand même été surpris par le travail qui avait été fait. Là.
Et quelles vont être vos attentes par rapport à ces négociations-là là, qui devront avoir lieu là, tout prochainement?
Bien, c'est sûr que nous, depuis le début, avant même l'annonce de mardi, les discussions qu'on avait avec le ministre de l'Éducation, c'était justement que on avait deux gros problèmes présentement avec la directive. Premièrement, il y avait vraiment des lacunes au niveau de la description des catégories. Il y avait des lacunes au niveau du manque là, d'une catégorie pour les francophiles. Mais aussi le gros problème que nous on avait puis qu'on espère régler avec ce nouveau règlement, c'est vraiment la gestion des admissions. Parce que comme vous le savez, dans le passé, nous devions aller pour une admission d'un non-ayant droit. Ça devait se rendre jusqu'au bureau du ministre et le ministre avait le dernier mot, avait le mot final sur l'acceptation ou le refus de l'étudiant. ça, ça avait une lourdeur absolument incroyable. C'est un processus qui était extrêmement lourd pour tout le monde, puis extrêmement difficile. Donc ça, c'est une des choses majeures qu'on a discuté avec le ministre, puis on souhaite que le règlement vienne corriger ça. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est simple. Vous avez le droit, en tant que gouvernement territorial, de décider qui, au niveau des non-ayants droit, peut intégrer l'école francophone. La Cour a été claire là-dessus, puis on le reconnaît. Ils ont le droit de décider. Nous, ce qu'on dit, c'est décider, mettez les processus en place, mettez les lignes directrices en place, mais laissez-nous gérer ce programme-là ou cette directive-là ou ce règlement-là en fonction des lignes directrices que vous allez établir. Donc, on va sauver beaucoup plus de temps. Ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide pour tout le monde, parce que présentement, ça n'a juste pas de bon sens.
Est-ce que vous voulez le modèle du UCOM? Ça me semble être un modèle que, en tout cas, vous regardez en estime.
Bien, écoute, c'est sûr que nous, quand on a vu ce qui s'est passé au UCOM, au niveau des admissions, je pense que le UCOM a fait des pas de géant versus ce qu'il y avait avant. Puis nous, c'est quelque chose comme ça là, qu'on viserait. T'sais, le but, c'est pas de rouvrir les portes à n'importe qui. À la commission scolaire, on prend très au sérieux la qualité du français qu'on enseigne à nos étudiants. Mais il y a quand même des cas particuliers. Puis les francophiles faisaient partie de cette catégorie-là, oubliée jusqu'à présent, où il y a des familles qui démontrent clairement, hors de tout doute, qu'ils ont la capacité au niveau parental, mais aussi au niveau des enfants, de venir à l'école de français langue première. Ils sont déjà impliqués dans la communauté francophone. Ils ont ça à cœur. Leur place est là. C'est clair, net et défini. Mais à cause de la directive ministérielle qu'on avait, ces gens-là étaient refusés. Puis ça, c'était un non-sens. Donc, c'est ça qu'on veut régler. Puis c'est ça qui se passe présentement dans pas mal toutes les provinces et territoires à travers le Canada. Donc, c'est ça qu'on vise. Puis oui, quelque chose comme le Yukon, là, nous, c'est clair qu'on serait satisfait avec ça.
C'était Simon Cloutier, président de la Commission scolaire francophone des TNO. Cette entrevue a été raccourcie pour les besoins de ce bulletin. Lundi matin, à l'émission Bonjour là, Baptiste Foisy présentera un entretien avec le ministre de l'Éducation des TNO, R.J. Simpson. L'Association médicale des TNO, qui regroupe 84 médecins du territoire, réclame la fin des mesures d'éloignement physique imposées par la santé publique depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le réseau CBC North a publié ce jeudi 2 juillet une lettre signée par le président de l'Association médicale des TNO, le Dr Andrew Kotaska, qui a été envoyée à l'administration de la santé publique des TNO, dirigée par la Dr Camille Candola. Le Dr Kotaska y indique que l'association se dit inquiète des dommages collatéraux provoqués par les mesures d'éloignement physique. Les écoles, les entreprises, les restaurants et les installations sportives devraient réouvrir et ce, sans restriction d'éloignement physique, peut-on lire dans la lettre. On préconise plutôt de mettre en place des mesures générales de santé publique qui auraient été améliorées. Les restrictions imposées aux visiteurs asymptomatiques dans les hôpitaux devraient également être levées, selon l'association médicale. Les effets néfastes de l'éloignement physique sur le plan social, le plan économique et le plan de la santé iraient en croissance, écrit le Dr Kotaska. Tandis que les dommages provoqués par COVID-19, eux, ont jusqu'à maintenant été nuls. On cite, par exemple, un accroissement de la violence à la maison, une réduction de la qualité de l'éducation, un accroissement de la consommation de substances, une aide peu accessible pour les gens souffrant d'autres conditions médicales, ou encore l'accroissement du niveau d'anxiété générale dans la population, provoqué par une peur disproportionnée des risques de subir les méfaits de la COVID-19. Selon l'association médicale, les établissements de soins de santé et les hôpitaux ont eu suffisamment de temps pour se préparer. Les restrictions aux frontières, les capacités de tests de dépistage et les protocoles de suivi des contacts et d'auto-isolement suffiseraient maintenant à contenir le virus. Dans sa lettre, l'association médicale reconnaît l'importance des mesures qui ont été mises en place pour assurer la sécurité des Ténois. On remercie également l'administration de la santé publique pour ses efforts qui ont permis d'éviter le genre de situation vécue ailleurs dans le monde. Or, l'association médicale souligne dans sa lettre qu'à l'heure actuelle, l'administration de la santé publique risque de perdre sa crédibilité aux yeux du public. En préservant les mesures d'éloignement physique en place, vient le danger que les gens ignorent également certaines restrictions plus ciblées et plus importantes afin d'empêcher COVID-19 d'entrer sur le territoire, peut-on lire. On recommande, en plus de lever les mesures d'éloignement physique, d'aviser le public qu'il devra ainsi s'attendre à plus de cas, à observer plus de cas de COVID-19 sur le territoire, tout en faisant comprendre que la santé publique y est préparée et que le tout peut être géré de sorte à minimiser les risques pour la population. L'Association médicale des TNO n'est pas la seule à émettre des critiques face aux réponses de la santé publique à la pandémie. Un groupement de 5 associations représentant la majorité des entreprises privées des TNO réclame aux GTNO de collaborer vers un meilleur équilibre entre les restrictions de santé publique et une reprise sécuritaire de l'économie. Il est temps de sortir notre économie de son coma, peut-on lire dans un communiqué partagé le 25 juin, co-signé par la Chambre de commerce des TNO, la Chambre de commerce de Yellowknife, la Chambre des mines des TNO et du Nunavut, Tourisme TNO et l'Association de la construction des TNO et du Nunavut. Les signataires applaudissent la réponse initiale de l'administration de la santé publique ainsi que certaines mesures d'aide financière accordées par le GTNO en début de crise. Or, on déplore dans cette lettre que le GTNO n'a démontré aucun signe d'adaptation pour appuyer les travailleurs du secteur privé, à un moment où pratiquement tous les employés du gouvernement travaillent à plein salaire. Contrairement aux recommandations émises par l'Association médicale des TNO, les associations d'entreprises signataires de cette lettre réclament notamment qu'on assouplisse les restrictions liées au voyage et au protocole d'isolement obligatoire, quitte à ce que ces restrictions ne soient pas les mêmes partout sur le territoire. On recommande également dans cette lettre que les employés du GTNO puissent retourner sur leur lieu de travail, tout comme le font plusieurs employés du secteur privé. On réclame également des réponses cohérentes et rapides de la part de l'administration de la santé publique sur la façon dont le bureau interprète les règles imposées aux entreprises et autorise des exceptions à ces règles. La lettre se conclut ainsi. Les entreprises des TNO font de leur mieux pour survivre. Nos élus doivent prendre les devants et agir, sans quoi nous serons témoins de dommages irréparables à notre communauté d'affaires. Selon des informations d'abord divulguées par le journal Inuvik Drum, une publication du groupe Northern News Services, le député de Nunakput, Jackie Jacobson, a formulé une plainte au commissaire à l'intégrité du territoire, alléguant que, en mars, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Diane Thom, aurait pris part, à son chalet d'Inuvik, à un rassemblement de 10 personnes, dont certaines auraient dû être en isolement. Si ces allégations étaient avérées, cela pourrait signifier que la ministre aurait enfreint les règles de santé publique qu'elle a elle-même instaurées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Une copie de cette plainte confiée au commissaire à l'intégrité par le député Jacobson a été publiée sur le site du Northern News Services. Le député Jacobson y fait lui-même état d'une plainte officielle formulée par le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux en avril. Jackie Jacobson y accuse également la première ministre Caroline Cochrane d'avoir trompé les députés en encourageant Mme Thom à minimiser l'incident. Le député de Nunakput y fait également mention d'une ébauche d'excuses publiques qu'aurait rédigée Diane Thom et dont NNSL affirme avoir également obtenu copie. Dans cette lettre qui n'est pas publiée, Mme Thom offrirait une reconstitution des événements. Elle confirmerait s'être rendue en motoneige à son chalet, accompagnée par 2 amis et indiquerait y avoir ensuite été rejointe momentanément par des individus qu'elle identifie comme ses cousins. Le bureau de la première ministre Caroline Cochrane a confirmé à Radio Taiga par courriel que le commissaire à l'intégrité a bien reçu la plainte de M. Jacobson. La première ministre affirme qu'il existe un certain nombre d'incertitudes concernant les affirmations contenues dans cette lettre, incluant la nature des restrictions qui étaient imposées au moment des faits allégués. La première ministre poursuit en indiquant que le GTNO ne peut commenter ce dossier pour l'instant, en regard de ses incertitudes et également par respect pour le commissaire à l'intégrité et pour toute enquête qu'il pourrait choisir d'entreprendre. Depuis cette semaine au Nunavut, les aînés résidents d'établissements de soins à long terme peuvent recevoir des membres de leur famille immédiate. Les résidents peuvent également prendre part à des rassemblements extérieurs de 50 personnes ou moins. Pour ce qui est des rassemblements intérieurs, les foyers peuvent maintenant accueillir 10 personnes en plus de ceux qui y habitent. L'administrateur en chef de la santé publique du Nunavut, le Dr Michael Patterson, en faisait l'annonce le lundi 29 juin. Des levées de restrictions sont normalement annoncées toutes les deux semaines au Nunavut. En matière de restrictions aux frontières et d'isolement obligatoire au retour sur le territoire, le Dr Patterson a réaffirmé que la situation ne permet pas actuellement d'envisager d'autres assouplissements. Toutefois, il laisse place à un certain espoir.
Although worldwide, the numbers don't look very good when you look at the curve of the number of infections in southern Canada, there's no doubt that the curve is flattening, and so there's reason to be optimistic at this time.
Le Dr Michael Patterson affirme que bien que les chiffres ne soient pas réjouissants à travers le monde, en observant les chiffres au sud du Canada, il n'y a aucun doute que la courbe d'infection s'aplatit. Il y aurait donc de bonnes raisons d'être optimiste, selon lui.
And as Minister of Finance, I'm also pleased to announce the government of Nunavut is expanding our Nunavut Essential Workers Wage Premium. Through this program, the government of Nunavut funds employers in eligible sectors so that they can pay their employees more for the work they do.
On entend ici le ministre des Finances du Nunavut, George Hicks, le 29 juillet, qui se dit heureux d'annoncer que le gouvernement étend la prime salariale pour les travailleurs essentiels du Nunavut. Cette prime a initialement été mise en place en complément salarial pour les travailleurs de la santé et des services sociaux offerts aux personnes vulnérables qui gagnent moins de 25 $ de l'heure. Dorénavant, cette prime est également offerte aux compagnies de taxi, aux restaurants, aux services d'entretien et de nettoyage de bâtiments, aux hôtels, aux services légaux, aux compagnies d'assurance et aux services mortuaires. Selon le ministre des Finances, le gouvernement fédéral a fourni environ 4 millions de dollars au Nunavut pour le bien de ce programme. Le ministre dit avoir négocié avec ses homologues fédéraux afin de modifier les paramètres du programme pour le Nunavut, puisque le salaire minimum y est supérieur à d'autres régions du pays. Les employés éligibles pourront recevoir un supplément rétroactivement au 1er mai, et ce jusqu'à 16 semaines suivant cette date. On apprenait ce jeudi 2 juillet l'apparition d'un cas présumé de COVID-19 sur le territoire nunavois. C'est un travailleur de la mine de Baffinland's Mary River qui pourrait être affecté. Le travailleur serait pour l'instant asymptomatique. Selon le Dr Michael Patterson, cette personne serait arrivée récemment sur le site où les employés sont soumis à une période d'isolement. Aucun résident des collectivités nunavoises ne travaille à la mine depuis le début de la pandémie. Et ce, dans le but d'éliminer les possibilités que la maladie ne soit transmise dans les collectivités du territoire. 12 travailleurs de la mine auraient été en contact avec la personne présumément atteinte de COVID-19 et sont actuellement en isolement sur le site de la mine. On attend les résultats du test de dépistage pour le début de la semaine prochaine. La mine Baffinlands a comme politique de tester toute personne qui revient après avoir séjourné dans une région du sud du pays, et ce, à plusieurs reprises. La personne concernée a passé ses tests et deux d'entre eux ont affiché des résultats positifs. La mine de Baffinland a travaillé avec le gouvernement du Nunavut pour créer ses protocoles relatifs à COVID-19. Le Dr Michael Patterson affirme que les professionnels de la santé employés par la mine ont été formés pour effectuer un suivi des contacts avec la personne potentiellement infectée sur place. Le Dr Patterson affirme qu'il n'y a eu aucun contact entre les travailleurs de la mine et les résidents des collectivités environnantes. Il affirme également que les risques de transmission entre des personnes possiblement infectées dans la mine et les autres travailleurs sont faibles. Ce cas présumé de COVID-19 n'affecte pas la bulle de voyage entre les TNO et le Nunavut, ni la levée de l'obligation d'isolement pour les voyages médicaux vers Churchill, au Manitoba. Si vous habitez la vieille ville de Yellowknife ou si, comme plusieurs résidents, vous affectionnez particulièrement ce secteur-là de la ville, vous avez sans doute remarqué la grande palissade qui est érigée sur les lieux où sera construit le nouveau projet du groupe Nova. C'est un projet qui a été approuvé en mai par le conseil municipal de Yellowknife. Un sujet controversé. Plusieurs résidents déplorent que l'immeuble à logement qui sera construit contrevient d'une part au règlement de zonage et d'autre part à l'esthétique du secteur. Enfin, c'est ce qui est avancé. Je suis présentement en ligne avec Vincent Desforges qui a signé un article pour le journal L'Aquilon, un article titré « Un code de design urbain pour la vieille ville ». Bonjour Vincent.
Bonjour Thomas.
Donc Vincent, il y a une controverse qui gronde depuis quelques semaines. Il y a un projet du groupe Nova qui a été approuvé, qui a été adopté par le conseil municipal. Vincent, quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas de cet immeuble dans la vieille ville?
Alors le cœur de la controverse était de savoir si un tel bâtiment pouvait être bâti dans la vieille ville. Le plan général qui régit le zonage et les autres règlements a une section pour la vieille ville quand c'est une zone à caractère, c'est-à-dire qui est reconnue pour avoir un certain style et une certaine apparence qui mérite d'être préservée. Le bâtiment proposé par le groupe Nova ne rencontre pas ces exigences, ce qui fut le cheval de guerre de différents intervenants, surtout dans la vieille ville. Cependant, le plan général a aussi une stipulation. Il peut y avoir une exception sur le zonage mis de l'avant dans le plan général, au-delà de ce qui est appelé le Weaver Drive et au long de la rue Franklin. Alors, malheureusement pour les gens de la vieille ville, le plan général, en quelque sorte, prévoit un tel bâtiment, même s'il n'y a peut-être pas quelque chose exactement comme ça en tête.
Donc, vous dites malheureusement pour les gens de la vieille ville. Vous pouvez nous décrire un peu le bâtiment dont il est question, Vincent? Il s'agit quand même d'un immeuble multilogement là, qui pourrait accueillir plusieurs familles.
D'accord. C'est pas exactement un bâtiment très esthétique, mais d'un côté, ça n'a jamais rien empêché d'être bâti à Yamanife.
Ça a fait l'objet de débats quand même au conseil municipal, mais bon, les conseillers ont voté en faveur du projet. Comme vous l'avez mentionné dans votre article, ça avait été porté devant les tribunaux. Il y a quand même peu de chances que les parties prenantes qui sont contre le projet aient eu gain de cause.
En effet, en cause, encore une fois, de déception. Et aussi, les considérations d'esthétique sont rarement prises en considération par de tels tribunaux. C'est pas exactement quelque chose qu'on peut mettre de l'avant. On peut appeler ça quelque chose qui est dommage, mais ensuite, quand on considère, j'ai vu par exemple dans un des articles qui avait flotté au sujet, qu'on peut avoir mille différentes opinions au sujet de l'esthétique, de ce qui est beau, ça peut mener à des conversations qui ne finissent pas. Mais donc, ils ont tendance à les ignorer.
Et Vincent, on voulait se prémunir peut-être de ce genre de situation avec peut-être l'adoption d'un code de design pour la vieille ville de Yellowknife?
Alors, techniquement, il y a déjà un code de design en place. C'est pas un véritable code, c'est plus des directives ou un code de référence. C'est plutôt un document de design qui explique les différents styles qui sont disponibles ou qui pourraient être considérés pour des bâtiments qui seraient bâtis dans la vieille ville. À ma connaissance, ce guide de design-là n'est pas appliqué de manière... c'est à la discrétion des développeurs. Ceci dit, il est difficile de légiférer quelque chose tel que le style ou l'apparence, mais récemment, il y a eu des développements, comme celui que je décris dans mon article, qui s'appelle en anglais le Form-Based Code. Il n'y a pas vraiment d'équivalent francophone existant encore, mais une telle approche permettrait de définir dans un code de design qui devrait être implémenté comment un tel quartier devrait se développer, quelle apparence les bâtiments pourraient avoir au lieu de laisser ça au hasard ou à l'interprétation des développeurs quand ils regardent les bylaws de zonage.
Donc, un form-based code ou finalement un code axé sur la forme des bâtiments là, qui pourrait, qu'on aimerait voir adopté, que certains aimeraient voir adopté pour la vieille ville. Vincent, il y a quand même des avantages qui ont été mis de l'avant pour la construction d'un immeuble multilogement. Ça pourrait offrir un accès aux familles, à plusieurs familles, à la vieille ville qui est un secteur reconnu quand même pour ses loyers assez élevés.
Il faut dire qu'en effet, que malgré ces lacunes esthétiques, un tel projet a certainement des avantages pour les gens de Yellowknife. Et aussi, ce projet sera bien vu, disons, des urbanistes de la ville qui souhaitent généralement de tels développements dans de tels secteurs, ce qu'ils appellent l'intensification. C'est aussi un projet qui serait pas trop loin de l'épicerie ou de différents lieux d'intérêt. Alors, il y a plusieurs avantages à un tel positionnement.
Vincent Desforges, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci Thomas.
Yeah.
La pluie et l'éloignement physique n'ont pas empêché les résidents de collectivités comme Fort Smith, Fort Providence et Hare River de sortir de chez eux le 1er juillet pour leur traditionnelle parade de la fête nationale. À Hare River, un cortège d'une trentaine de voitures a pris part à la parade, dont le trajet a été spécialement pensé cette année pour permettre à tout le monde de pouvoir observer les festivités à partir de leur propre terrain. Le tout a été précédé d'une levée traditionnelle du drapeau canadien par des agents de la GRC. La mairesse de Hare River, Candice Jamieson, a présenté un discours avant de laisser place au solennel « Au Canada », chanté par une artiste de Hare River. True patriot love in all of us command. Comme l'indique Nicole Lee Mitchell, organisatrice de l'événement, on se réjouit du succès des célébrations qui ont été approuvées par la santé publique et méticuleusement organisées pour assurer le respect des règles d'éloignement. Les participants ont dû, par exemple, rester dans leur voiture durant le trajet de la parade, le genre de restriction qui ne semble pas avoir affecté l'engagement de la communauté.
I think it was special just in the general COVID way where despite everything that's going on in the world, we were still able to get a bunch of people together safely and put on a good show. Everyone seemed to enjoy it and that's about it. I didn't try to do anything crazy or extra because I knew with what's going on. But I just think the number of vehicles we had in it was just a lot.
Notons Nicole Lee Mitchell, organisatrice des célébrations de la fête du Canada à Hare River, qui se dit surprise, par exemple, du nombre de véhicules qui a pris part à la parade. À ses yeux, la formule simple mais très populaire de cette année a permis de démontrer que malgré la pandémie qui fait rage à l'échelle mondiale, les gens peuvent encore se rassembler et célébrer leur fête nationale. La trame sonore de cette parade de la fête nationale à Hare River a été offerte par le Hare River Music Club, aussi connu sous le nom de Cold Crook Fiddle Association, dirigé par Linda Dufort. C'était vos nouvelles Territoires d'info. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'Initiative du journalisme local. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'info vous a été présenté grâce à la généreuse contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.